médiation prise par l'ordre des médecins. La décision a été mise en délibéré. Les Roms n'ont pas vocation à rester en France. Ces mots prononcés par Manuel Valls ici même sur France Inter en 2013 alors qu'il était ministre de l'Intérieur avaient à l'époque suscité une vive polémique tant et si bien qu'une association avait porté l'affaire devant la justice pour provocation à la haine. Et bien aujourd'hui, le tribunal correctionnel de Paris s'est déclaré incompétent pour juger le Premier ministre. Un an d'inéligibilité pour Fabien Angelman, le maire FN d'Hayange en Moselle a été condamné aujourd'hui par le tribunal administratif de Strasbourg pour manquement dans ses comptes de campagne pour la municipale. Fabien Angelman a donc décidé de faire appel de cette sanction et son recours lui permet de conserver le siège de maire en attendant donc un nouveau jugement. Ils étaient peu nombreux dans la rue aujourd'hui, les intermittents du spectacle, à peine 200, ce qui ne les a pas empêchés de clamer haut et fort leurs revendications le jour où justement avait lieu le Conseil national des professions du spectacle. Les intermittents veulent une politique culturelle ambitieuse avec des moyens. Ils veulent aussi un statut qui tienne la route et aujourd'hui ils sont confortés dans leur discours par l'UNEDIC qui considère que leurs propositions sont réalistes. À propos justement de la concertation, eh bien Fleur Pellerin, la ministre de la Culture, a annoncé aujourd'hui que les conclusions seront rendues début janvier. 15 000 euros, les notes de Jacques Vergès sur sa plaidoirie dans le procès de Klaus Barbie. Elles ont été adjugées aujourd'hui lors d'enchères à l'hôtel Drouot à Paris. Ne dites pas le contraire, si je vous dis mode, vous répondrez Paris ou la France. Eh bien c'est une erreur. Pour exploser à Paris, la mode s'est nourrie des influences venues du monde entier. Et c'est tout l'objet de l'exposition Fashion Mix que l'on peut voir au musée de l'histoire de l'immigration à Paris. Et qu'on se le dise, Isabelle Pasquier, le fondateur de la haute couture, n'est pas un Français.
Un coup de ciseau dans la fierté française. En fait, c'est un Anglais, Charles Frédéric Vorte, qui est le père de la haute couture parisienne. Au milieu d'une cape coccinelle de Balenciaga et des robes de soie froissées de Fortuny, Fashion Mix, c'est un grand défilé de haute couture sur 150 ans de rêves en soie et en taffetas, avec les vagues successives d'immigration, les Russes blancs, les Italiens, avec Elsa Schiaparelli, artiste surréaliste et grande rivale de Coco Chanel, hôte Pessilux et commissaire de Fashion Mix.
En 1927, Elsa Schiaparelli va ouvrir sa maison. Elle rencontre, travaille avec Cocteau, Picasso, mais surtout avec Dali, qui est son complice, son frère d'âme. Dali disait qu'il aimait se coiffer d'une chaussure, et voilà qu'ensemble, ils imaginent en 1937 cette coiffe, un chapeau en forme de chaussure, qui sera d'ailleurs porté par Gala, la femme de Dali.
Aux côtés des robes métalliques de Paco Rabanne, il y a son passage quand il était enfant dans les camps de réfugiés espagnols. Plus tard, arrivera l'école japonaise avec Kenzo, puis l'école belge. Aujourd'hui, malgré la concurrence mondiale, Paris reste la capitale de la haute couture. Avec ses robes et ses tissus de rêve, Fashion Mix nous raconte une autre histoire de l'immigration.
Et l'exposition Fashion Mix au musée de l'histoire de l'immigration à Paris, c'est jusqu'au 31 mai prochain. Il n'a pas le même parcours que Thierry Henry, mais tout de même, c'est un sacré bonhomme qui s'apprête à quitter les terrains de foot. Éric Abidal, l'ancien joueur du Barça, a annoncé sa retraite sportive aujourd'hui. Raison personnelle, a dit le joueur de 35 ans qui avait quitté le Barça, on s'en souvient, après avoir subi une grève du foie. Elles n'ont pas tout perdu, les Françaises. Les handballeuses françaises ont remporté leur match tout à l'heure contre la Hongrie à Budapest, 26-25. Elles terminent donc 5e des championnats d'Europe de handball et elles obtiennent du coup leur ticket pour le tournoi de qualification pour les JO de 2016 à Rio. Allez, vous n'y échapperez pas, les vacances de Noël commencent ce soir pour beaucoup d'entre vous avec à la clé réveillon, famille, cotillon et cadeaux. Mais pour cela, il faut que tout le monde arrive à bon port au pied du sapin, car qui dit fête de fin d'année dit monde sur les routes. Bison futé voit orange pour ce soir et demain. On va voir cela dans un instant avec Nicolas Olivier.
Point route avec GMF Assurance, des solutions auto, santé, habitation parmi les meilleures du marché avec des tarifs adaptés à vos besoins. Informations et devis sur gmf.fr.
Alors dites-moi Nicolas Olivier, comme d'hab ça coince aux portes de Paris ou ailleurs ?
Un petit peu partout, à vrai dire. Il y a plus de 500 km d'embouteillage actuellement sur les principaux axes du pays. La tendance est à la hausse. On va commencer par le nord, où l'autoroute A2 est bloquée à hauteur de Valenciennes en direction de Paris. Il faut patienter plus d'une heure à cause d'un accident. Très compliqué aussi en Alsace, l'autoroute A4 pour entrer ou sortir de Strasbourg. Ça prend 3 quarts d'heure environ. Pas mal de difficultés également sur les rocades de Nantes, Toulouse, en région grenobloise. bruxelloise et lyonnaise. L'A7 est chargée d'ailleurs au départ de Lyon en direction donc de Marseille. Autour de Paris, la circulation est complètement saturée. 370 km de bouchons cumulés avec une autoroute A6 totalement bouchée de Paris, à Évry. Il faut à peu près 1h45 pour faire 30 km.
Nicolas, Olivier, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, prendre la route un peu plus tard. Et si les grands sont au volant ce soir, les petits, eux, étaient déjà au taquet, comme on dit, à la sortie de l'école cet après-midi. Illustration avec ces témoignages recueillis à la sortie d'une école à Caen par Louise Delépine de France Bleu à Caen.
J'aime bien les vacances de Noël. Bah, parce qu'on va en famille, on s'amuse bien, aussi on a des cadeaux. Bioski.
Je souhaite mon anniversaire.
Ils sont complètement épuisés. Toute la semaine, ça a été très dur. On les a motivés à coups de petits chantages, la fête de l'école, le Père Noël qui arrive.
Bah, on peut se reposer, il n'y a pas d'école et on ne fait pas de devoirs.
Et les grelots, c'est pour le Père Noël. Allez, on l'oublierait presque, mais quel temps fera-t-il pour ce premier week-end de vacances? Grelin Grelot, les prévisions météo fraîches de Jean-Michel Golinski, c'est dans un instant.
La météo avec les chapons fermiers de Loué. Authentique chapon fermier.
Jean-Michel Golinski pour la météo.
Léger déclin des températures ce week-end, mais dans l'ensemble, elles resteront encore au-dessus des moyennes et partout éloignées des gelées matinales en pleine. Demain, des Alpes du Sud au bassin méditerranéen et sur la Corse, le soleil va briller toute la journée, mais le Mistral et la Tramontane seront très turbulents. Du sud-ouest aux Charentes et du Massif central à Rhône-Alpes, après quelques pluies matinales, le temps va bien s'éclaircir. Plus au nord, les brouillards seront suivis d'un ciel variable, mais avec un vent très désagréable à proximité des côtes. Dimanche, vous aurez une très belle journée du sud-ouest au Cantal et de l'est du Rhône au bord de la Méditerranée, mais sur les deux tiers nord, là le temps sera quand même beaucoup plus gris et même parfois maussade l'après-midi au nord de la Seine.
Tous les dimanches à 18h10 sur France Inter, tous politiques. Le rendez-vous politique de France Inter. Thomas Legrand.
L'école est en crise, inégalitaire, elle laisse trop d'élèves sur le bord de la route. Faut-il réformer les notes, les programmes? Est-ce vraiment suffisant? Ce dimanche, Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, est notre invité. Posez-lui toutes vos questions sur Twitter dès maintenant avec le hashtag TousPol.
Tous politiques, en partenariat avec Le Parisien, aujourd'hui en France, le dimanche sur France Inter à 18h10.
Dans la famille, orchestre, je voudrais les percussions.
Les timbales, le xylophone, les maracas ou le marimba.
Oh oui! Retournons jouer avec les musiciens de l'orchestre.
Bah, tu vas être content, on y va samedi.
Dans la famille orchestre, la série d'ateliers et concerts de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Prochain rendez-vous, samedi 20 décembre à partir de 10h30 à la Maison de la Radio.
La musique comptée, expliquée, jouée, tous ensemble, petits et grands.
Informations 01 56 45 16 et sur maisondelaradio.fr/concert-classique.
Allez, vous écoutez France Inter, il est presque 18h16, c'est à vous Eric Valmire, un jour dans le monde.
This is Radio Free Europe.
Cuba, vue de l'intérieur, au lendemain du rétablissement des relations diplomatiques avec les États-Unis, quel est le quotidien des Cubains ces dernières années? Romain Boudon, envoyé spécial d'Inter à La Havane, Leonardo Capatura et Wendy Guerra, deux auteurs cubains, deux générations qui n'ont jamais quitté l'île. Le Liban qui légalise le cannabis, un marché exploré par Anthony Bélanger, ce sera à 18h55.
France Inter, un jour dans le monde, Éric Valmire.
On aura décidément beaucoup de mal à échapper aux stéréotypes, la mandoline et cette mafia poisseuse. Cette mafia certes globalisée mais qui colle encore et toujours à l'Italie. On finit par croire que c'est une caricature et pourtant. Stefano Montefiori, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant du Corriere della Sera à Paris. La mafia, toujours là, avec ses collusions avec la classe politique italienne.
Oui, il s'agit en plus d'une mafia peut-être nouvelle, qui a peut-être des liens avec l'ancienne, mais c'est une mafia très centré à Rome, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc c'est un phénomène tout nouveau et intéressant.
Et qui provoque un véritable séisme, loin des schémas traditionnels, comme vous le disiez à l'instant, de Cosa Nostra, de la Camorra, de la Ndrangheta. Voilà donc cette mafia de Rome, démantelée par le parquet antimafia, avec des ramifications profondes au sein du Campidoglio, la mairie de Rome, et les élites locales, de gauche et de droite. 37 personnes interpellées, une centaine de personnes sont sous enquête, dont l'ex-maire de droite, Gianni Alemano. La capitale, touchée elle aussi par la mafia, c'est donc un symbole qui interpelle tous les Italiens. C'est un reportage d'Anaïs Feugal, la correspondante de France Inter à Rome.
À la tête de cette organisation, un sinistre personnage, Massimo Carminati, 56 ans, lié de près ou de loin à tous les mystères italiens des 40 dernières années. Ex-membre du groupe terroriste d'extrême droite néofasciste Dena, auteur d'une trentaine de meurtres dans les années 70, il a aussi été proche de la bande de la Maliana, ces criminels romains qui ont fait régner la terreur sur la capitale dans les années 80. Mêlé à des affaires louches, emprisonné pour le braquage d'une banque, bref, c'est cet homme, selon les enquêteurs, qui en toute tranquillité aurait monté ce système de détournement d'argent public en corrompant des hommes politiques de tous bords et des patrons d'entreprises publiques. Une mafia autochtone, explique le procureur général de Rome, Giuseppe Pignatone, interrogé par la commission antimafia.
Rome est trop grande pour être contrôlée par une seule association. Le repenti Calderone le disait déjà il y a 40 ans de Naples, donc imaginez avec Rome. Il n'y a pas une seule association qui soit présente de manière exclusive à Rome. Il y a en revanche quelques associations de type mafieux présentes sur le territoire urbain. Cette mafia, on l'a appelée originelle et originale. Originelle parce qu'elle est romaine et parce qu'elle n'a pas de lien avec les mafias classiques. Originale parce qu'elle a des caractéristiques propres, justement parce que c'est une mafia romaine.
Ma non più a Roma. La gran parte degli arrestati, compreso l'ex-NAR, sono stati infatti trasferiti al carcere di Tolmezzo, in provincia di Udine. Questo per una questione di incompatibilità ambientale.
Le business des déchets était une de ses ressources, mais le système reposait aussi sur des coopératives, ces associations peu contrôlées, auxquelles l'État a délégué entre autres l'accueil et la gestion des demandeurs d'asile. C'est ainsi que les Italiens ont appris avec effroi que cette mafia romaine faisait son chiffre d'affaires sur le dos des centres d'accueil des réfugiés et des Roms. T'as pas idée de ce qu'on gagne avec les immigrés, dit au téléphone l'un des suspects, ça rapporte plus que la drogue. Et ce SMS envoyé le 1er janvier 2013, souhaitant une année pleine d'immigrés, de réfugiés et de mineurs. Pour le monsieur anticorruption, Raffaele Cantone, ex-procureur antimafia, il faut surtout un changement culturel des mentalités pour en finir avec les mafias et la corruption. Il est bon aussi, selon lui, de faire évoluer les lois.
Il y a des normes antimafia qu'il serait utile d'étendre à la lutte contre la corruption. En y mettant des garanties, on pourrait appliquer la règle sur les remises de peine pour ceux qui collaborent. Il y a aussi toutes les règles sur les écoutes téléphoniques, mais surtout, il serait très utile d'intervenir sur la prescription. En tout cas, au moment où on montre l'indignation du pays, un signal de la part de l'autorité politique est utile et nécessaire.
Le gouvernement italien a adopté un projet de loi qui prévoit des peines plus lourdes et surtout la séquestration des biens, comme pour la mafia. Mais tout cela devra passer par le Parlement avant d'être définitif.
Anaïs Feuga, correspondante de France Inter à Rome. Stefano Montefiori, journaliste au Corriere della Sera. Un commentaire sur ce reportage ?
Oui, je le trouve très complet et très intéressant. Et...
Enfin, commentaire, ça ne veut pas dire que ce soit un bon ou mauvais. Ouais,
non, mais, je vais dire qu'il dit l'essentiel, ouais. C'est-à-dire que c'est une mafia nouvelle, mais aussi qui rappelle des mécanismes, des systèmes anciens. Je me souviens de l'autre film, on a cité tout à l'heure Le Parrain, l'autre film qui parle de la mafia, de Roberto Benigni, Johnny Stecchino. Le boss mafieux dans ce film dit en vérité, le vrai problème de Palerme, c'est le trafic. Il y a trop de voitures. Et à Rome, pareil, pendant des années, les citoyens se plaignaient du trafic, de la circulation. Ils découvrent que le problème de Rome est tout à fait plus grave. Il y a quelque chose de pourri à l'intérieur de toutes les institutions. Et ce concerne tous les niveaux, c'est-à-dire le niveau des entrepreneurs, aussi le niveau des politiques, à droite, soit à gauche.
Ça, par exemple, c'est plutôt nouveau, parce qu'en général, les grands coups de filet anti-mafia concernent les caïds, les boss, et rarement on touche aux entrepreneurs et aux hommes politiques, sauf il y a 22 ans, lors de la ferme impropre et d'un Tangentopoli.
Oui, mais justement, on avait pensé, lors de l'affaire impropre, que les problèmes commençaient à être réglés. Malheureusement, on s'aperçoit maintenant que pas du tout. Il y a un rapport de Confindustria, le MEDEF italien, qui souligne que si effectivement la corruption avait été combattue, comme c'était prévu après l'affaire main propre, l'Italie aurait maintenant 300 milliards en plus, c'est-à-dire 5 000 euros par personne. Ce n'est pas le cas. Donc on a un retard, ça a une influence sur l'économie italienne.
0,6 du PIB, dit la Confindustria.
Voilà, voilà.
C'est énorme.
Donc c'est énorme. Et on n'arrive pas, à stopper ce phénomène.
Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir encore une autre affaire main propre ? On a vu par exemple que Matteo Renzi a évidemment été scandalisé publiquement par ce nouveau scandale, d'autant que son ministre du Travail a été un moment plus ou moins inquiété parce qu'il a été pris en photo avec le parrain. Bon, tout ça s'est un peu arrangé, mais le soupçon reste encore.
Oui, bien sûr, et Renzi a essayé de désamorcer un peu les soupçons sur son gouvernement et a essayé de se montrer très déterminé. Et il a annoncé de nouvelles mesures et surtout, il a, à mon avis, bien fait de rappeler que l'Italie doit aborder un tournant éducatif et culturel. C'est-à-dire, on peut se raconter que la corruption regarde quelques dizaines d'hommes politiques ou d'un entrepreneur. Effectivement, c'est quelque chose qui est lié, malheureusement, au caractère national. On le voit partout, à tous les niveaux de la société, dans la vie quotidienne, des gens qui ont des métiers les plus variés. C'est quelque chose d'ancré dans le quotidien de tout le monde.
Alors, il ne faut pas sous-estimer et penser que les Italiens sont résignés face à ces faits de corruption et de mafia. Au contraire, en pleine crise économique, ils sont encore plus scandalisés, surtout quand ça affecte à ce point-là l'économie italienne. Et les réformes du marché du travail initiées par Matteo Renzi passent encore plus mal dans un tel contexte.
Oui, évidemment. Quand on lit les transcriptions des écoutes téléphoniques ou des exponents, des protagonistes de cette mafia, se réjouit des probables catastrophes naturelles parce que comme ça ils vaincront des appels d'offres et ils auront des contrats magnifiques et par exemple il y a quelqu'un qui dit ah, avec les immigrés tu sais je gagne 40 millions d'euros, c'est beaucoup plus rentable que la drogue. Alors quand on entend parler de 40 millions d'euros grâce au trafic d'immigrés, grâce au camp des immigrés et tout ce que Renzi a réussi à faire concrètement a été de donner 80 euros dans le salaire de chaque Italien, c'est déjà très bien, mais je vais dire la comparaison est affreuse et les gens sont très énervés et très scandalisés.
Alors, puisqu'on est ensemble, profitons-en pour balayer l'actualité italienne en quelques minutes. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Italie. On évoquait la réforme du marché du travail. Il y a eu des milliers d'Italiens dans la rue vendredi dernier pour s'opposer à cette flexibilité initiée par ces réformes. Qu'en est-il exactement aujourd'hui?
Il y a une grève générale qui a été plutôt suivie. Il y a eu malheureusement aussi des incidents dans la rue. Renzi, il a essayé...
Mais sur le fond des réformes, est-ce que ces réformes vont passer?
Oui, je crois absolument oui, parce que le gouvernement Renzi est complètement déterminé. Il y a aussi un jeu politique au-delà de la grève générale était importante aussi parce que Renzi voulait démontrer qu'il n'était pas trop influencé par le syndicat, qui est jugé comme un élément qui a bloqué trop longtemps l'économie italienne. Et donc, c'est vital pour lui, soit de réformer le marché du travail, soit de le faire contre le syndicat pour démontrer que l'économie italienne n'est plus bloquée par le syndicat.
Les syndicats italiens ne se portent pas très bien. Déjà mis à mal par Marchionne et à Fiat, et maintenant par Renzi. On se demande ce que pèsent les syndicats italiens aujourd'hui dans la vie italienne.
Ils pèsent encore beaucoup. Il faut souligner qu'ils ont une partie de responsabilité dans le fait que soit Renzi, soit Marchionne ne les aiment pas. Et leur responsabilité, c'est d'avoir trop longtemps protégé ceux qui étaient déjà à l'intérieur du marché du travail, sans trop se préoccuper de tous les gens qui n'arrivent pas à rentrer dans le marché du travail, qui sont des précaires. Et donc, cette rigidité du marché du travail n'a pas permis aux gens de commencer à travailler. L'Italie a un pourcentage de chômage des jeunes horrible. Donc, c'est 43% des gens en dessous de 25 ans qui n'ont pas de travail, donc c'est terrible. Le gouvernement Renzi pense, après on va voir si ça va fonctionner, mais le défi est voir si en rendant le marché du travail plus flexible et en rendant plus facile pour les entrepreneurs d'embaucher des gens, si effectivement on arrive à réduire un peu le chômage qui est un des grands flots de l'Italie d'aujourd'hui.
Alors Renzi n'a pas les coudées franches pour autant, le spectre d'élections législatives anticipées au printemps est toujours là et surtout accentué par le fait que Giorgio Napolitano, le président de la République, qui, ne l'oublions pas, dans les institutions italiennes, joue plus un rôle de garant de la stabilité et d'arbitrage, mais c'est un rôle tout de même important. Oui. Et il va certainement se retirer des affaires, puisque il a plus de 90 ans, je crois,
Napolitano. C'est l'âge qui compte, c'est aussi le fait qu'il a déjà continué, il est déjà resté au pouvoir, même s'il ne voulait pas, mais c'est un peu toute la classe politique qu'il a prié de rester, comme on ne réussissait pas à trouver une alternative. Et donc, juste hier, il a annoncé que son départ est imminent, il l'a défini comme ça. Et donc, après, tous les jeunes experts du Quirinale, le palais de la présidence de la République, estiment que donc, ça veut dire qu'il va peut-être laisser entre le 10 et le 20 janvier.
Est-ce qu'il va encore provoquer une période instable à un moment où, justement, le gouvernement italien n'a pas besoin d'instabilité pour lui succéder? Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on n'entend plus parler de personnalité politique pour lui succéder. Le nom de Renzo Piano qui apparaît,
oui, voilà,
architecte.
Oui, parce qu'il est énormément estimé en Italie, aimé, d'accord, mais ça donne... ça signifie qu'effectivement, la classe politique n'arrive plus à exprimer des noms crédibles. À côté de ça, le dernier mot dont on parle, c'est Romano Prodi, l'ancien président de la Commission européenne.
Ouais, c'est un vrai pro de la politique.
Ancien président du Conseil, mais à nouveau,
mais qui est trop clivant peut-être pour le centre-droit, non ?
Oui, en plus, il avait déjà risqué d'être élu président de la République quand, effectivement, après Napolitano, il a été confirmé. Et donc, on va voir si pour la deuxième fois, Romano Prodi va être brûlé dans sa candidature, qui d'ailleurs n'a pas posé lui-même. Mais on dit que peut-être que c'est un nom envisageable.
Alors, pour les amoureux de l'Italie, c'est toujours quand même très, très dur de trouver des motifs de se réjouir. À chaque fois qu'on parle de l'Italie, on a toujours un peu les épaules qui s'affaissent devant tant de difficultés. Une idée, donnez-nous une raison de nous réjouir, hormis le fait que la Roma va gagner le championnat.
ce qui n'est pas trop probable, mais...
laissez-moi y croire, alors.
parlons économique, ce n'est pas trop gai, mais de toute façon, après la récession de cette année, apparemment, l'année prochaine, ce sera un peu mieux. On parle d'un PIB qui va monter à plus 0,5, donc il faut se réjouir de ces petits pas en avant.
Qui peut avoir une influence sur, évidemment
sur le chômage.
Catastrophique. Stefano Montefiori, merci mille fois. Vos articles sont à lire dans le Corriere della Sera, à condition d'être dans un café milanais derrière un ristretto.
Merci, au revoir.
Et voici The Cooks sur France Inter, ça mérite bien une ovation. Mesurez votre enthousiasme. The Cooks, prisonniers d'étiquettes que chacun veut leur coller. Pop, ska, post-punk, reggae, rock, funk. Je suis d'accord, en fait, on s'en fout.
Well, I can say, well, I- more conversation. Tell me why.
Pardonne et oublie, forgive and forget, formidable Cooks. France Inter, 18h33 à Paris, midi et demi à La Havane.
En Chile está ocurriendo un proceso insólito. Es un proceso revolucionario.
Has maintained the closest surveillance.
Un jour dans le monde, Éric Valmire.
Tratan de llevar adelante los cambios pacíficamente.
Of the Soviet military build-up on the island of Cuba.
Sur France Inter.
Castro Kennedy envoyé dans la préhistoire par Barack et Raoul, les États-Unis et Cuba ont rétabli leurs relations diplomatiques avant-hier. Et depuis, le monde entier braque ses projecteurs sur l'île cubaine. Romain Boudon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'envoyé spécial de France Inter à La Havane. Quel visage revêt la vie quelques heures à la ville quelques heures après l'annonce ?
Écoutez, ici, dans les ruelles étroites de Habana Vieja, la vieille Havane, les joueurs de guitare semblent toujours comme figés dans un décor d'un autre siècle. Les façades colorées décrépies, les vieilles voitures américaines des années 60, les drapeaux cubains et les portraits de Fidel vendus aux touristes. Les Cubains continuent finalement à vivre leur train-train d'un vendredi d'hiver où il fait 28 degrés. Alors évidemment, quand je pose la question aux commerçants et aux passants, quand je prononce les mots Raúl Castro et Barack Obama, les visages s'illuminent, la fierté d'une ouverture historique entre Cuba et les États-Unis, cette fierté est partout. Tout le monde ici espère que l'ouverture d'une ambassade américaine à La Havane, que le développement d'Internet, des travaux dans le bâtiment et la facilité des voyages vont changer la vie de la plus grande île des Caraïbes. Mais il y a quelques minutes, un jeune vendeur de souvenirs m'avouait discrètement que c'était presque trop beau pour être vrai. Et ici, on sent que dans un pays étouffé par un embargo depuis un demi-siècle, certains des 11 millions de Cubains ont du mal à croire à une ouverture, ont du mal à imaginer un changement si énorme. Beaucoup me l'ont dit, hein. On y croira finalement quand on le verra.
Historique, vous avez prononcé le mot, et c'est un mot qu'emploient les diplomates, les journalistes, les historiens aussi. C'est un mot qui est usé à foison. Est-ce un sentiment partagé par les Cubains ?
Oui, oui, c'est indéniable. Tous les habitants que j'ai croisés m'ont raconté cette journée d'avant-hier quand ils ont su que Raúl Castro allait s'exprimer à la mi-journée, ce qui est extrêmement rare pour lui, quand ils ont allumé leur radio et quand ils ont donc entendu de la bouche de Castro et surtout de celle d'Obama, ce désormais célèbre « Somos todos americanos », nous sommes tous des Américains. Ici, chaque Cubain a conscience de vivre en direct un moment d'histoire. Et si tous répètent qu'ils sont fiers de leur régime et de leur président, qu'ils sont fiers d'être restés dignes pendant un demi-siècle d'asphyxie, tous remercient aussi Barack Obama et le pape. Ici, on a l'impression que l'anti-américanisme, une des bases du système castriste, cet anti-américanisme n'a finalement plus de raison d'être, et ce alors que la guerre froide est un vieux souvenir. Chaque habitant est en train de se rendre compte que cette reprise des relations diplomatiques va changer la vie de Cuba, mais est aussi une étape majeure dans la grande histoire, avec un grand H, de cette année 2014 et de ce début du siècle.
Romain Boudon, en direct de La Havane, vos reportages à suivre dans les journaux de France Inter ce week-end et lundi. Romain en parlait à l'instant. Cuba, le Malecón, cette avenue et ce mur qui borde la ville au nord, ces vieilles Cadillacs aux moteurs ronflants, les froufrous, ces façades de maisons colorées, patinées, décrépies. Très vite, La Havane en fait peut se charger de stéréotypes, jusqu'à la musique. Chachan, Compay Segundo, devenu bien malgré lui un folklore touristique. Les clichés ont la dent dure. Cuba revit donc aujourd'hui un demi-siècle d'histoire, un demi-siècle d'exil et de rêves enfermés. La révolution castriste, la guerre froide, puis la chute du mur et l'écroulement communiste. La famine, après les exils idéologiques, les exils économiques. Pour ne pas mourir de faim, c'était dans les années 90, la fameuse période spéciale. Et puis des années prisonnières d'un monde qui n'existait plus. Cette réalité-là, de ces dernières années, le cinéaste Laurent Canté la raconte dans son dernier film Retour à Ithaque, tourné avec des comédiens cubains qui avaient le sentiment de raconter leurs propres histoires. Cinq vieux amis sur les toits du Malecón qui regardent leurs vies abîmées dans le rétroviseur avec l'humour en garde-fou.
Pour dire des conneries, tu peux compter sur nous, hein. C'est tout ce qui nous reste.
Il y a autre chose que je n'oublierai jamais. C'est toutes ces nuits qu'on passait ensemble à refaire le monde. On y croyait vraiment.
J'ai plus l'âge de la nostalgie de nos croyances passées.
À l'époque, on vivait à 100 à l'heure. On pensait.
On est des vieux cons. Allez, rendez-vous à l'évidence.
Comprendre le Cuba d'aujourd'hui entre les lignes. Le pari fou, un pari fou, il est réussi par Laurent Canté.
Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'explorer l'imbrication totale du politique, et Dieu sait si le politique est fort à Cuba, puis de l'intimité de chacun de ces personnages. Et c'est vrai que j'aime beaucoup regarder comment les idéaux se cassent face à la violence du monde qui nous entoure, même si certains essayent de s'accrocher à ces vieux rêves parce que ces vieux rêves, ils aident à vivre. Moi, c'est un truc dans lequel je peux un tout petit peu me reconnaître aussi. Il y a quand même le sentiment que sans cet idéal qui nous anime tous, à un niveau ou à un autre, dans un registre ou dans un autre, on n'est pas grand-chose.
Ok.
T'as peut-être raison. J'avais peur, mais je ne me suis pas tiré. Je suis resté là et j'ai affronté les choses. J'ai commencé à dire oui à tout. C'est ce qu'il voulait que je dise. Oui. Que tout le monde dise oui. Qu'on lève la main et qu'on approuve tout. Que tout ça soit de la merde. Que je sois une merde. Et je les ai laissés faire de moi une merde. Ce n'est plus le pays où l'on a grandi. Ce pays n'est plus ce qu'il était. Je t'assure. C'est un truc bizarre qui ne sait pas où il va.
C'est vrai, ce n'est pas le paradis. Mais on se débrouille et on survit.
Amadeo, d'après toi, de quoi je vis?
Elle doit faire la pute.
Je ne vis pas de mon salaire. Avec ce que gagne un ophtalmo ici, on ne fait pas grand-chose. Je vis de ce que mes enfants m'envoient de Miami. Des cadeaux, de mes patients, du fromage, un poulet, des savonnettes. C'est vrai, ça fait de moi une pute. Échanger des services, c'est faire la pute.
C'est le lien entre cette crise économique terrible qu'a été la période spéciale, donc chute de l'URSS, fin des subventions de l'URSS à Cuba, le blocus américain qui continue à sévir et qui même se durcit à ce moment-là. Tous ces facteurs-là entrent en résonance et font que les seules préoccupations des Cubains à ce moment-là ne sont plus idéologiques, ne sont plus qu'est-ce qu'on va faire de ce pays, c'est qu'est-ce qu'on va bouffer ce soir, comment est-ce qu'on va faire vivre nos enfants, qu'est-ce qui va se passer demain. Et d'un seul coup, tous ces idéaux qui animaient quand même la société cubaine se cassent la figure face à des questions aussi triviales que ça, quoi. Les Cubains ont eu plusieurs réponses à ça. Alors certains sont partis, d'autres se sont complètement désengagés. Et c'est pour ça aussi que je pense que les personnages du film, là, sont assez représentatifs de cette génération.
Tout aussi représentatif, Wendy Guerra, la quarantaine affirmée, à peine 20 ans le lendemain de la chute du mur. Dans son dernier livre, Negra, publié chez Stock, elle raille une société cubaine devenue individualiste au fil du temps et se moque d'un socialisme tropical, une idéologie devenue exotique seulement pour une vitrine marketing désuète.
Je crois que une société qui ne résout pas
Los asuntos fundamentales para la supervivencia es muy incómodo.
Je crois qu'une société qui n'arrive pas à résoudre les aspects de base est une société où on se sent mal.
Uno tiene que estar buscando agua, buscando comida todo el día.
On passe notre temps à chercher de l'eau, de la nourriture.
Se acaba el jabón, se acaban las servilletas, se acaba todo.
Il y a plus de savon, il y a plus de serviettes.
Llega un momento que no puedes juzgarlo como bueno o malo, es sencillamente insoportable.
Il y a un moment, c'est même plus une question d'être bon ou mauvais, c'est juste insupportable.
Una etapa superior de la decadencia del socialismo.
C'est l'étape maximum de la décadence d'une société.
Cuando dejas de pensar como un ente social y empiezas a pensar como un animal.
C'est-à-dire qu'au lieu de penser comme un être social, on commence à penser comme un animal.
Les frontières ont commencé à s'ouvrir et votre génération en a profité pour partir. Cette génération qui dit avoir souffert. Comment vous avez vécu ces années à La Havane?
Los años 90 para mí fueron terriblemente duros.
Alors pour moi, les années 90 ont été terriblement difficiles.
Todavía tengo algunas huellas físicas.
Donc j'emporte encore certains effets physiques à l'estomac.
De la mala alimentación. Fueron años donde teníamos 3 y 4 horas de luz solamente.
Donc c'était des années où on avait au maximum 3 à 4 heures d'électricité par jour.
Yo creo que quedarse para contar es el oficio de un escritor.
Je crois que rester pour raconter, c'est le métier d'un écrivain.
La Havane change à une vitesse vertigineuse en ce moment.
Son ruinas interactivas.
Elle appelle ça des ruines interactives.
Sí, c'est ça.
C'est-à-dire?
Il y a beaucoup de sexe, un sexe très fort, la gente est très promiscua.
Il y a une grande promiscuité, le sexe est très...
Le sexe a toujours été comme ça.
Ahora es muy, está muy expuesto, porque la vida en esta época... Todo es muy transparente, todo se ve mucho.
C'est-à-dire que la différence, c'est que il y a toujours eu effectivement beaucoup de sexe, mais actuellement, il est plus exposé. Tout est transparent, on le voit beaucoup plus.
Como la gente se viste,
la façon
con todo afuera, ¿no?
De s'habiller des gens,
exhibiendo todo,
qui montre tout.
Et como la gente se ama, se besa en la calle, como se arriman, ya
la
todo,
façon
como muy abierto físicamente.
Dont les gens se touchent, s'embrassent dans la rue, tout est très physique, tout est très manifeste.
Porque yo creo que el sexo es para los cubanos el único espacio de libertad, lo único que tenemos de verdad nuestro es el cuerpo.
Je crois que le sexe, en fait, c'est la seule liberté des Cubains. La seule chose qu'ils ont conservé, c'est leur corps.
El único espacio de libertad que tenemos los cubanos es el sexo.
Sí. Et le seul espace de liberté que possèdent les Cubains, c'est le sexe.
Et que penser du fait que, en s'ouvrant, des gens de l'extérieur viennent et que ça développe le tourisme à La Havane. On voit beaucoup les Américains revenir, les Européens et investir à Cuba.
Ha cambiado mucho la diáspora cubana. Tiene mucho que ver con el turismo.
Ça a beaucoup changé. La diaspora cubaine, en fait, est très liée avec le tourisme.
La gente está poniendo restaurantes con muy poco dinero, comprando departamentos para hacer hoteles, preparándose para cuando se acabe el embargo.
Donc, comme il y a peu d'argent, les gens ouvrent des restaurants, des hôtels, ils se préparent pour le moment où l'embargo sera terminé.
No hemos cambiado absolutamente, malheureusement.
Donc malheureusement, nous n'avons pas changé.
Pero poco a poco se están ocupando de las individualidades y eso es un gran paso.
Mais peu à peu, donc le gouvernement s'occupe des individualités et ça c'est déjà un grand pas en avant.
Wendy Guerra dans le vent dans Malecón qu'elle n'a jamais quitté en dépit des difficultés. La fin de l'embargo qui va favoriser les affaires des élites et des réseaux, dit-elle. Et par ricochet peut-être accentuer les inégalités sociales à Cuba. C'est le risque, c'est sa crainte. Et au fil de ses voyages à Cuba, Laurent Canté, le cinéaste de retour à Ithaque, éprouve le même ressenti.
J'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, à Cuba, une classe moyenne est en train de naître. Et que cette classe moyenne, d'abord, ça se voit dans les rues, parce qu'il y a de plus en plus de restaurants, de bars, de boîtes de nuit qui ouvrent. Et cette classe moyenne est en train de créer une espèce de fossé entre elle, je crois, et les classes les plus populaires. Moi, c'est vrai qu'on voit de plus en plus aussi de voitures, de plus en plus de gens qui semblent vivre beaucoup plus aisément qu'ils ne le faisaient avant. Alors, tout ça, c'est le résultat d'une libéralisation aussi du marché. C'est-à-dire que d'un seul coup, les Cubains qui ont pu se le permettre ont eu le droit d'ouvrir des petits commerces, des petites échoppes, des sociétés de services, des choses comme ça. Et que, qu'évidemment, il y a de l'argent qui circule beaucoup plus qu'avant, quoi. Ça se sent aussi, je pense, dans les relations que les gens ont aux étrangers. C'est-à-dire que j'ai l'impression, alors ça s'étale peut-être sur plus longtemps, mais j'ai l'impression que depuis une dizaine d'années où je vais régulièrement à Cuba, les langues se délient. On n'a plus peur de parler à un étranger, on n'a plus peur de raconter ce qu'on raconte, par exemple, dans le film, qui est comme ça une espèce de bilan de 50 ans de révolution, pas toujours à la gloire de la révolution. Ce type de discours peut avoir lieu aujourd'hui.
Cela dit, le film qui était attendu au Festival de la Havane n'a pas été programmé en dernière minute.
Oui, ça a été une grande déception pour moi, pour toute l'équipe. On a été très déçus et surpris d'apprendre que le film avait été déprogrammé du festival. Maintenant, on est dans l'attente d'une programmation éventuelle à Cuba. On va tout faire pour ça, on va se battre, parce que je pense que ce film, il a une vraie raison d'être à Cuba, et que, par ailleurs, toutes les lectures qui ont été faites en France et dans le monde, dans les pays où il est sorti, montrent bien que ce n'est pas un brûlot anticastriste, que ce film, au contraire, il tire comme ça des leçons de cette histoire récente qu'a vécu Cuba, et que peut-être que c'est une phase nécessaire pour aller de l'avant. Je veux dire, repenser son histoire, c'est quelque chose qui aujourd'hui devrait être possible à Cuba. Et surtout, je donne la parole à des Cubains.
À des Cubains, à tous les Cubains, pas seulement ceux qui regardent derrière, mais aussi ceux qui regardent devant. Les jeunes générations qui doivent inventer le Cuba de demain. L'auteur co-scénariste du film, Leonardo Padura, ne les oublie pas.
Si, en la historia.
Pour cette histoire, nous nous sommes dit qu'il fallait créer une balance par rapport au regard qu'on se fait de la réalité cubaine. C'est pourquoi nous avons fait apparaître les personnages que sont le fils d'Aldo et sa fiancée. Ce sont deux jeunes qui ont une vingtaine d'années, qui ont une vision de la réalité complètement différente de celle de leurs parents. Ces jeunes ont une vision beaucoup plus erratique de la réalité. Tout au long du film, nous voyons comment les cinq personnages réunis ont cru, ont eu foi en un processus social. Et avec l'arrivée de ces deux jeunes gens, nous comprenons qu'il y a une raison pour laquelle cette croyance, cette foi n'existe pas en eux. Ils ne croient absolument pas en la possibilité qu'ils puissent se réaliser à Cuba. Le personnage, le fils d'Aldo, qui vient d'une famille qui a une identification dans le processus révolutionnaire, une famille noire, qui a des biens, son père était ingénieur, mais ce jeune homme ne s'intègre pas à cet environnement. Il ne croit en rien de cela. Et son unique but est de quitter Cuba.
Et
ceci est significatif d'un film dans lequel on parle du retour sur l'île en tant que concrétisation d'un rêve. Mais ces retours individuels, c'est important de le dire, c'est un retour individuel d'un personnage, alors que, pris dans une forme collective, le mouvement est encore celui de l'exil. Il y a un croisement entre les générations qui ont des visions différentes de la réalité cubaine.
De 1920 más vengo pulsando la lira, luchando con los soneros negra, ninguno me hizo nada. En Guantánamo, la malocina donde yo me sacudí, uno llamado Pepe Luis Juan Pablo, ese sí le daba bueno. Yo me sostuve sereno, madre, el rato que estuve allí. Thank you.
así que mi cuerpo inerte lo lleven al campo santo. Allí yo no quiero llanto, que rueguen por mi ventura y al darme la sepultura que entonen alegre canto.
Abelardo Barroso en Guantanamo, produit par l'inénarrable producteur du projet Buena Vista Social Club, Nick Cold. Et autant de dire que cela se sent tout de suite. Abelardo Barroso, pour refermer ce volet cubain, les références, salutaire film de Laurent Canté qui ne pouvait pas mieux tomber pour décrypter un Cuba contemporain de l'intérieur, un Cuba projeté sous les feux de l'actualité internationale depuis avant-hier. Retour à Ithaca, actuellement au cinéma. Et puis les romans de Leonardo Padura chez Métayer, sans oublier ceux de Wendy Guerra chez Stock, dont le sublime Negra a fait l'événement lors de la dernière rentrée littéraire.
Un jour dans le monde.
Qu'allez-vous dire ?
Un pour tous, tous pour un.
Merci Anthony Bélanger.
Vous pouvez attendez, vous allez beaucoup trop vite.
Plutôt heureux maintenant ?
Eh oui, il a bossé quand même. Hein.
Sur France Inter.
Il bosse toujours. Anthony Bélanger vient de nous rejoindre. Bonsoir Anthony.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
L'on reparle en France de la légalisation du cannabis pour le plus grand bonheur, non pas d'Anthony Bélanger, mais du Liban.
Et oui, parce qu'en attendant d'ailleurs une hypothétique modification de la loi française sur les drogues, une des plus dures d'Europe d'ailleurs, le trafic, lui, continue. Et le ravi de la crèche cannabique cette année, c'est le Liban, notamment à cause de la guerre en Syrie. Comme toujours donc, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais ça demande tout de même quelques explications que je m'empresse de vous donner. De 1990 à 2012, l'armée libanaise, qui n'avait, il faut bien le dire, pas grand-chose à faire, s'est mise en tête d'éradiquer les champs de cannabis de la plaine de la Bekaa. Avec une certaine efficacité d'ailleurs. Hein. Dans les années 90, plus de 30 000 hectares de culture ont été détruits, privant 23 000 familles de leurs sources de revenus. Mais la guerre en Syrie a tout changé, tout à coup. L'armée libanaise a eu d'autres priorités que les champs de cannabis. Il faut garder la frontière, surveiller les pros et les anti-syriens. Bref, depuis 2012, les paysans de la Bekaa ont une paix royale.
Et j'imagine, Anthony, que ça doit se voir sur le terrain.
Et comment ? La production de résine de cannabis a augmenté de 20% en 2012 et encore de 50% en 2013. On attend avec impatience les chiffres de 2014, impatience surtout dans la plaine de la Bekaa. Il faut dire qu'un hectare d'herbe qui fait rire rapporte la bagatelle de 120 000 euros net d'impôts, évidemment, et que la guerre en Syrie, évidemment, a d'autres conséquences tout aussi favorables au cannabis, d'ailleurs. D'abord, une main-d'œuvre pas chère, car c'est une des contraintes de la récolte de cannabis, et qu'elle est très gourmande en petites mains cueilleuses. Ça tombe bien, si je puis dire, évidemment. La guerre a jeté au Liban des centaines de milliers de réfugiés syriens qui tous cherchent désespérément du travail. Enfin, dernier effet d'aubaine, le délitement de l'État syrien. Bah oui, parce qu'avant la guerre, côté syrien, la police, l'armée et l'administration de Bachar el-Assad traquaient les trafiquants. Depuis, eh bien, les choses, ils nuisent à, évidemment, toutes choses qui nuisaient aux petits commerces. Depuis 2011, les policiers syriens sont absents et l'armée, elle, est occupée à massacrer la population. Du coup, les trafiquants sont de retour en masse. Ils achètent du cannabis au Liban et le revendent aux Turcs avec un gros bénéfice et même aux Irakiens.
Si je comprends bien, Anthony, si je vous suis bien, donc tout le monde en profite pour s'en mettre plein les poches.
Ouais, comme toujours, hein, tout le monde sauf le Hezbollah, figurez-vous. Et oui, c'est aussi le paradoxe de la situation, mais ça demande aussi un peu d'explication. Les paysans producteurs de cannabis de la Bekaa sont chiites et sont donc protégés par le Hezbollah chiite qui prélève depuis toujours sa dîme. Sauf que depuis 2 ans, les paysans de la BKA se sont beaucoup enrichis avec le cannabis. Ils se sont donc armés eux-mêmes pour défendre leurs intérêts et ont moins besoin du Hezbollah pour les protéger. De plus, ils sont ingrats, nos paysans chiites. Pourquoi enverraient-ils leur fils se battre avec le Hezbollah en Syrie pour 500 dollars par mois, alors qu'on est si bien et qu'on gagne si bien sa vie au chaud, au village, côté libanais? La milice chiite deviendrait presque une nuisance et les gros producteurs de la BKA commencent même, et ça c'est incroyable, à discuter avec le gouvernement et l'armée en expliquant qu'ils seraient ravis de payer des impôts pourvu qu'on les laisse tranquilles.
Le monde qui tourne à l'envers, c'était Anthony Bélanger. À 19h20, l'investigation au cœur de l'information, c'est Secret d'Info. Jacques Monin, bonsoir.
Bonsoir.
Au sommaire ce soir.
Alors, tout autre chose. Hein. Vous allez entendre l'enquête exclusive de Mathieu Aron sur les raisons cachées du rachat de la branche énergie d'Alstom par General Electric. Vous savez qu'on nous a expliqué que cette vente était nécessaire pour des raisons stratégiques. Arnaud Montebourg, à l'époque, nous a dit qu'il voulait changer la donne en faisant rentrer dans le jeu l'allemand Siemens. Mais ce qu'on ne nous a quasiment jamais dit, c'est qu'au cœur de cette vente, il y a une affaire de corruption, une gigantesque affaire de pot de vin versée en Indonésie, pour laquelle Alstom devrait bientôt verser 700 millions de dollars d'amende à la justice américaine. Alors, on va l'évoquer dans le journal de 19h, mais les dessous de cette affaire, c'est à écouter donc dans Secret d'Info.
À 19h20, le rendez-vous est pris. Ce jour dans le monde qui s'achève été réalisé par Lilian Allôme avec Alexandre Chenet et Serge Viguier, préparé avec Nathalie Poitvin et Sarah Masson, composé par Djoubaka, avec les précieuses contributions d'Éric Oswald, Emmanuel Leclerc, Marie-Christine Le Duc, Xavier Monferrand et Aurélien Colli, qu'il soit remercié jusqu'à la 17e génération. Nathalie, bonnes vacances bien méritées et bon week-end à tous.